France Inter. La rencontre avec l'inconscient est une aventure. On vous emmène cette semaine avec le docteur Nasio.
Aujourd'hui, plus que jamais, c'est vous qui êtes au centre de notre récit. Car j'ai choisi de vous parler de votre névrose. Oui, de votre névrose. Je dirais de notre névrose. Puisque nous sommes tous plus ou moins névrosés. Il est très difficile d'établir nettement une frontière entre le normal et le pathologique. Il n'est guère d'état normal où l'on ne puisse déceler un trait névrotique et même pervers. La perversion étant de traiter notre semblable comme un objet de consommation sans égard pour sa personne. En effet, je pense que nous tous, nous avons non seulement un comportement névrotique, mais aussi des accès de perversion qui font partie de notre névrose. Entendons-nous, le névrosé n'est pas un malade pervers, tel un pédophile ou un violeur qui relève du pénal et nécessite des soins psychiatriques. Non, le névrosé est traversé par des fantasmes pervers. Et même parfois, il agit impulsivement en se servant de l'autre, sans égard pour sa personne. Je vous donne un exemple entre mille. Souvenez-vous du célèbre film de Francis Weber, Le dîner de cons. Vous y reconnaîtrez dans le personnage joué par Thierry Lhermitte un comportement pervers qui consiste à inviter à dîner François Pignon, la victime, à la seule fin de rire à ses dépens avec des amis. Avant de poursuivre, je vous rappelle que comme d'habitude, nous conclurons notre épisode en répondant aux questions que m'ont adressées celles et ceux qui ont déjà écouté ce récit en podcast. N'oubliez pas que tous les épisodes de l'inconscient sont accessibles en podcast sur les plateformes d'écoute des franceinter.fr.
L'inconscient avec le docteur Nasio sur France Inter.
Je vous disais donc que nous sommes tous névrosés. Mais sachant qu'il existe trois variantes de la névrose, il reste à savoir laquelle est la nôtre. Aussi, je vous demande, êtes-vous phobique, obsessionnel ou hystérique? Je vous dis tout de suite qu'il ne s'agit pas de vous ranger sous une étiquette. Mon souhait, en vous posant cette question, et de vous amener à vous reconnaître dans l'une de ces trois névroses ou dans le mélange des trois. C'est pour moi une manière de piquer votre curiosité sur vous-même, sur votre personnalité et sur la personnalité de ceux qui sont autour de vous. Vous affinerez alors la connaissance intuitive de vous-même et vous serez mieux préparé pour anticiper éviter les éventuels conflits. Nous avons donc trois variantes de la névrose. Phobique, obsessionnelle et hystérique. Dans chacune d'elles, une souffrance prédomine. En effet, si j'écoute un patient qui, dès le premier entretien, me parle de son angoisse viscérale ou de tout ce qu'il fait pour éviter l'angoisse, j'écoute un phobique. S'il me parle de ce qu'il doit faire et qu'il n'arrive pas à faire, je veux dire, s'il me parle de son impuissance à répondre aux exigences professionnelles, j'écoute alors un obsessionnel. Et enfin, s'il me parle des complications de sa vie amoureuse, j'écoute un hystérique. Bien entendu, ces distinctions ne sont jamais aussi tranchées. Elles cherchent seulement à vous faire comprendre qu'une névrose se cristallise toujours autour d'une de ces trois émotions majeures que sont l'angoisse pour les phobiques, l'impuissance pour l'obsessionnel et l'amour pour l'hystérique. Venons-en enfin à la définition de la névrose en général. Qu'est-ce que la névrose ? Je vais la définir d'abord comme un ensemble des six dysfonctionnements de notre personnalité. Et plus tard, je vous parlerai des causes qui la provoquent. Je vais donc commencer par vous présenter les six dysfonctionnements en donnant à chaque fois la parole à la femme ou à l'homme névrosé tel que je l'ai entendu de la bouche de mes patients. Premier dysfonctionnement. Le névrosé est celui qui, bercé par des rêves impossibles, se heurte à la réalité et, frustré, se sent insatisfait. Je me souviens nettement des mots d'un patient, Nicolas, des mots qui illustrent l'éternelle insatisfaction du névrosé. « Docteur, me disait-il, je ne suis pas heureux. Je suis tout le temps insatisfait. Je ne suis jamais content de ce que j'ai, de ce que j'ai fait, ni de ce que je suis. Et le pire, docteur, je vous l'avoue, c'est que je ne veux pas être content. C'est terrible, mais c'est ainsi. Je ne veux pas être content pour ne pas risquer d'être déçu. Finalement, je préfère continuer à rêver, quitte à rester sur ma faim. » En vérité, Nicolas est un angoissé. Il a peur de se confronter à la réalité. Puisque je vous parle de Nicolas, je me souviens encore d'un échange que j'ai eu avec lui sur le thème du bonheur. Un jour, où il me répétait sans cesse qu'il n'était pas heureux, je lui signalai que, probablement, il s'est posé trop la question de savoir s'il était ou non heureux et que la réponse ne pouvait être que négative. C'est là que je lui ai dit ce que je voudrais vous dire à vous aujourd'hui. Si vous voulez être heureux, ne vous posez jamais la question de savoir si vous l'êtes. Oubliez-vous et faites ce que vous avez à faire. L'oubli de soi et la plongée dans l'instant présent sont les deux vraies conditions du bonheur. Deuxième dysfonctionnement du névrosé. Le névrosé est celui qui a une image négative de lui-même. S'il s'agit par exemple d'une femme phobique, elle se lamente en secret. « Je ne m'aime pas parce que je suis trop anxieuse et dépendante. Je ne peux rien faire sans que ma mère ou mon compagnon soit là. » S'il s'agit d'un homme obsessionnel, il grogne contre lui-même. « Je me sens vraiment nul. J'ai peur d'occuper ces postes alors que je me suis tant battu pour l'obtenir. » S'il s'agit d'une femme hystérique, elle se désole. « Je ne m'aime pas parce qu'à chaque fois je me fais avoir. Je tombe toujours sur des mecs qui ne me conviennent pas. Ils cherchent le sexe et pas l'amour. » Vous le comprenez, le phobique souffre de se voir fragile et dépendant, l'obsessionnel souffre de ne pas être à la hauteur de la tâche, et l'hystérique souffre de se voir si naïf en amour. Tous souffrent d'être en conflit avec eux-mêmes. C'est pourquoi mon travail d'analyste est de rendre les patients plus indulgents avec lui-même. Troisième dysfonctionnement du névrosé. Le névrosé est celui qui, au moindre signe, s'angoisse à l'idée que son compagnon le quitte, l'humilie ou le trompe. S'il est phobique, il s'angoisse en se disant « Je sais qu'il est là, mais j'ai peur qu'il s'en aille. » S'il est obsessionnel, il s'angoisse en se disant « Je sais qu'il m'apprécie, mais je sais aussi qu'à la première occasion, il ne manquera pas de me critiquer. » S'il est hystérique, il s'angoisse en se disant « Je sais qu'il m'aime, mais il est comme tous les autres. Il va sûrement me tromper. » Il faut comprendre que toutes ces angoisses du névrosé sont des craintes infondées qui envahissent ces journées devenues infernales. Je dois vous dire qu'une grande partie de mes interventions auprès des patients névrosés consiste à relativiser leurs inquiétudes exagérées. Quatrième dysfonctionnement. Comme je vous l'ai dit en commençant, le névrosé est celui qui a des accès compulsifs des perversions. En effet, nous sommes parfois la proie des pensées malveillantes et d'actes impulsifs où nous nous servons de l'autre. Comme si à certains moments, nous ne pouvions pas nous empêcher de traiter notre prochain comme un objet de consommation sexuelle ou agressive. Ici, me vient à l'esprit une phrase de Freud qui m'a toujours impressionné par la violence de son propos, mais aussi par sa justesse. L'homme, écrit-il, n'est point un être doux, au cœur assoiffé d'amour, mais un être ayant une très forte agressivité qu'il satisfait aux dépens de son prochain, en exploitant son travail, en l'utilisant sexuellement sans son consentement, en l'humiliant, en lui infligeant des souffrances, en le martyrisant et même en le tuant. Essayons maintenant de voir quelle forme adopte la perversité dans chacune des variantes de la névrose. Si le névrosé est phobique, il ne peut s'empêcher par moments de solliciter tellement son compagnon qu'il finit par l'asphyxier et l'avaler. Si je devais associer le phobique à un animal, je penserais au boa. Ce gros serpent qui étreint sa proie et l'étouffe avant de l'ingurgiter. S'il est obsessionnel, il ne peut s'empêcher par moments de tout contrôler, de contrôler la vie de sa compagne jusqu'à la tyranniser. Si je devais condenser en un geste l'attitude de l'obsessionnel, je tiendrais dans ma main crispée toutes les pensées, les sentiments et les comportements de ma compagne, rien ne doit m'échapper. Et si le névrosé est hystérique, il ne peut s'empêcher par moments de séduire son compagnon, l'exciter et aussitôt le frustrer, jusqu'à en faire le jouet de ses caprices. Si je devais condenser en un geste l'attitude de l'hystérique, ce serait la passe du torero qui excite l'aimé en agitant sa muleta rouge jusqu'à l'épuiser et le dominer. Cinquième dysfonctionnement du névrosé. Le névrosé est celui qui se sent souvent coupable de vouloir faire du mal ou d'avoir fait mal à l'être qu'il aime. Mes accès compulsifs des voracités, si je suis phobique, mes accès compulsifs de sadisme, si je suis obsessionnel, et mes accès compulsifs de perfidie, si je suis hystérique, me culpabilisent. Venons-en maintenant au sixième et dernier dysfonctionnement. Le névrosé est celui qui adopte, sans s'en rendre compte, un comportement affable qui masque sa perversité. De peur que son partenaire, traité comme un objet, ne le juge, ne le quitte, le névrosé s'affiche gracieux et avenant pour cacher la brute qui sommeille dans son cœur. Si je suis phobique, je cache mon envie dévorante de m'écoller à celui que j'aime et me montre ridiculement autosuffisant. Si je suis obsessionnel, je cache mon envie sadique de faire mal à l'autre et me montre ridiculement gentil et doucereux. Et enfin, si je suis hystérique, je cache mon envie d'aguicher et d'effrustrer celui que j'aime et me montre ridiculement tendre et amoureux. Voilà donc les six dysfonctionnements qui déforment notre personnalité et rendent parfois l'existence invivable. Nous pouvons maintenant les résumer ainsi. Le névrosé souffre d'insatisfaction et en même temps, son insatisfaction le rassure. Il est tout le temps centré sur lui-même, même s'il ne s'aime pas. C'est ce que j'appelle le narcissisme négatif. Il s'angoisse de peur d'être quitté, humilié ou délaissé. Par moments, il ne peut s'empêcher d'avoir des comportements pervers et il se sent alors facilement coupable. Et enfin, il se montre aux autres et à lui-même comme une personne exagérément autosuffisante, attentionnée et aimante. Tout à l'inverse du pervers qu'il ne peut s'empêcher d'être par moments. En un mot, sans exclure les nombreuses qualités humaines dont nous faisons preuve chaque jour, nous sommes tous à des degrés divers, parfois insatisfaits, souvent égocentriques, fréquemment angoissés, quelquefois pervers et aussitôt culpabilisés, et tout naturellement comédiens. Vous avez peut-être l'impression que le portrait du névrosé que je viens de vous brosser est trop cruel. Je vous l'accorde, mais c'est à dessein que j'ai forcé la note à la limite de la caricature pour vous rendre chaque dysfonctionnement plus éloquent. Mais je pense que vous saurez relativiser et ne retenir que les traits névrotiques qui résonnent en vous. Une autre remarque importante. Le portrait du névrosé que je viens de vous décrire est celui d'un névrosé ordinaire qui ne présente pas des symptômes caractérisés. Je distingue ainsi deux sortes de névroses. La névrose ordinaire, je dirais saine, qui ne présente pas des symptômes, et une névrose plus sévère, pathologique, avec des symptômes qui nécessitent l'intervention d'un professionnel. des symptômes tels que l'attaque des paniques dans la phobie, les troubles obsessionnels compulsifs dans l'obsession, ou encore les troubles somatiques dans l'hystérie, tels des céphalées insupportables, l'impuissance sexuelle ou encore la frigidité.
L'inconscient avec le docteur Nasio sur France Inter.
Venons-en maintenant à la névrose considérée du point de vue des causes qui la provoquent. Comment devient-on phobique, obsessionnel ou hystérique ? La définition classique de la névrose nous dit qu'il s'agit d'une affection psychogène, c'est-à-dire une affection dont la cause n'est pas organique mais psychique. Cependant, je préfère aller plus loin et préciser que la cause psychique de la névrose est une hypertrophie de l'imaginaire. Oui, un imaginaire malsain qui a des effets néfastes et durables sur la vie du névrosé. Or, cet imaginaire toxique, je l'appelle fantasme. Qu'est-ce que le fantasme ? Le fantasme est une fabulation inventée par un enfant, futur névrosé, en réaction au traumatisme qu'il vient de subir. Complétons alors notre définition de la névrose en disant « La névrose est une affection provoquée par un fantasme post-traumatique qui s'est installé durablement dans l'inconscient d'un enfant traumatisé et qui, à la manière d'un feu inextinguible, est à l'origine des 6 dysfonctionnements névrotiques chez l'adulte. Schématiquement, la formation de la névrose se décompose en 3 temps. Au tout début, l'enfant a subi un traumatisme infantile, cause première de la névrose. Ensuite, s'est installé dans la tête de l'enfant un fantasme, cause centrale qui entretient la névrose durant toute la vie. Et enfin, la personnalité de l'enfant devenu adulte est déformée par les 6 dysfonctionnements dont nous avons parlé. De ces 3 maillons, je vais commencer par le traumatisme. Le traumatisme est un événement violent qui consiste dans l'impact d'une forte excitation chez un être immature qui n'a pas les moyens psychiques de l'amortir. Pour mieux vous faire comprendre ce qu'est un traumatisme, j'aimerais que vous écoutiez le récit que m'aurait confié un patient imaginaire, Antoine, qui, enfant, aurait été traumatisé. Écoutons-le. Tout au début, petit enfant, j'étais victime d'un violent traumatisme qui a brisé mon être, encore inachevé, et fait s'envoler la douceur de ma vie. Au moment même de l'impact, j'étais pétrifié. Je savais que quelque chose d'effroyable, d'irréparable se produisait en moi, mais sans savoir quoi. Je me sentais cloué sur place, incapable de réagir en fuyant, en m'angoissant ou même en criant. Voilà ce qu'aurait vécu un enfant au moment de la secousse traumatique, sans oublier que son cerveau a été très atteint au niveau des connexions interneuronales. toujours en me référant au traumatisme infantile, je voudrais m'attarder sur un aspect très important. L'événement traumatique peut se produire en une seule fois et violemment, comme par exemple lors de la mort soudaine d'un père, ou en plusieurs fois sous la forme d'une accumulation des micro-impacts traumatiques apparemment inoffensifs. Justement, je voudrais vous présenter maintenant un exemple d'agression micro-traumatique chez un enfant. Je pense à Lucie, une fillette de 10 ans que j'ai reçue en analyse il y a quelque temps déjà. Ce jour-là, avant de terminer le premier entretien avec Lucie qui souffrait de crise de colère, j'ai fait entrer la mère qui l'accompagne. Rapidement, la maman, une femme vraisemblablement atteinte d'une névrose obsessionnelle sévère, me raconte, et vous allez être surpris, mais c'est ainsi, qu'elle introduit un thermomètre dans l'anus de sa fille 4 fois par jour, anxieuse de vérifier que Lucie n'a pas de fièvre. En l'écoutant, je lui réplique aussitôt « Madame, il faut arrêter de prendre la température à Lucie. Depuis combien de temps contrôlez-vous si souvent la fièvre de votre fille ?» Et elle de me répondre « Mais docteur, la petite souffre d'une maladie rare et le professeur Dumoncel m'a demandé qu'en cas de fièvre, je la fasse hospitaliser d'urgence. Certainement, lui dis-je, mais je suis sûr que le professeur ne vous a jamais indiqué de lui prendre la température 4 fois par jour et encore moins par voie anale. Attention, vous avez raison de prévenir l'hospitalisation, mais un enfant est très sensible lorsque l'on touche aux parties intimes de son corps. C'est de cette manière que j'ai parlé à une mère hautement intrusive et traumatisante. J'ai clos l'entretien en lui disant « Madame, je vais vous demander pour la prochaine fois de m'apporter tous les thermomètres que vous avez à la maison. » Figurez-vous que la semaine suivante, la mère est revenue avec Lucie en ayant dans son sac une trousse des toilettes remplie de thermomètres. C'est alors que je lui ai demandé « Combien de thermomètres avez-vous là ?»« Je ne sais pas, docteur. Une 40aine, peut-être. » »« Je préfère alors, lui dis-je, que vous le mettiez de côté et que vous preniez la température de votre fille avec un thermomètre frontal, par exemple. »« Justement, me dit-elle, j'en ai un avec moi, mais ça ne marche jamais. » C'est alors qu'elle approche le thermomètre du front de sa fille et de son propre front à plusieurs reprises pour bien me montrer que ce type d'instrument n'est pas fiable. « Regardez, docteur, quelquefois il affiche 36, d'autres fois 37 et même 38. Essayez sur vous-même et vous verrez qu'il ne marche pas. » Elle avait raison. Les thermomètres sur mon front indiquaient 38, ce qui évidemment était une erreur. Voilà que nous nous retrouvions tous les trois en train d'essayer de prendre la température sur les fronts. Il fallait voir la scène. C'est alors que j'ai conclu la séance en lui disant « Vous avez raison, le thermomètre sur les fronts ne marche pas, mais vous ne pouvez pas continuer à prendre 4 fois par jour la température rectale de Lucie. Et si avant la prochaine séance, vous vous angoissez en pensant que Lucie peut avoir une poussée de fièvre, n'hésitez pas à me téléphoner. » Vous venez d'entendre un exemple de micro-traumatisme répété. Si demain, dans 20 ans, un psychanalyste reçoit Lucie, devenue maintenant une femme, souffrant de frigidité avec son mari, par exemple, et de céphalées tenaces supposées hystériques, et que ce psychanalyste se demande quel a été le traumatisme qui a déclenché sa névrose, je lui aurais suggéré « Cher confrère, Si vous ne trouvez pas un événement traumatique unique, cherchez alors les micro-effractions traumatiques qui se seraient produites dans l'enfance de votre patiente. Et cherchez aussi la relation intrusive traumatique qu'elle aurait pu vivre avec sa mère, et vous comprendrez mieux l'origine de la frigidité et des céphalées hystériques de cette jeune femme. Cet exemple de Lucie, petite fille traumatisée, devenue une femme souffrant des symptômes hystériques, m'amène à distinguer les trois types de traumatismes infantiles à l'origine des trois névroses. Si je reçois un patient adulte qui me consulte pour des fortes angoisses phobiques, je m'attends à trouver dans son enfance ou dans son adolescence un traumatisme d'abandon, telle la mort soudaine d'un proche, l'éloignement d'un père ou d'une mère divorcée, ou le rejet de ses parents. Si je reçois un patient adulte qui me consulte pour ses ruminations incessantes, ses regrets et ses doutes obsessionnels, je m'attends à trouver dans son enfance ou dans son adolescence un traumatisme de maltraitance physique ou morale, tels des châtiments corporels ou des humiliations continuelles. Si, comme nous l'avons vu avec Lucie, je reçois un patient adulte qui me consulte pour des complications dans sa vie amoureuse et des problèmes somatiques à caractère hystérique, je m'attends à trouver dans son enfance ou dans son adolescence un traumatisme d'abus sexuel ou d'une tendresse envahissante. En un mot, quand je reçois un patient névrosé qui souffre, il a probablement été un enfant abandonné, un enfant maltraité ou un enfant abusé ou trop érotisé. Venons-en maintenant au deuxième maillon de la formation d'une névrose, à savoir le fantasme. Je vous ai dit que le fantasme est une fabulation inventée par un enfant en réaction au traumatisme qu'il vient de subir, et je vous ai dit aussi que ce fantasme était le feu inextinguible qui gouverne le cœur et la tête du névrosé. Mais concrètement, qu'est-ce que le fantasme ? Le fantasme, c'est une scène dramatique vue par un enfant dans un théâtre de marionnettes. Une scène simple où interviennent deux personnages, un méchant et une victime. Scène infantile que nous ne visualisons pas mentalement, mais qui reste vivante dans notre inconscient d'adulte et que sans le savoir, nous jouons et rejouons sans cesse dans la réalité de nos relations affectives. Comme par exemple, nous nous angoissons à l'idée que notre compagnon nous quitte, nous humilie ou nous trompe. Nous lui faisons jouer le rôle du méchant et nous jouons celui de la victime. En revanche, si dans un accès d'impulsivité, nous traitons notre compagnon comme un objet en l'abandonnant, en l'humiliant ou en le frustrant, nous jouons, sans le savoir, le rôle du méchant. Et nous faisons jouer à notre compagnon celui de la victime. Mais que nous nous sentions tout petits et angoissés, ou tout puissants et dominateurs, nous ne nous rendons pas compte que nous agissons comme des enfants sous la dictée d'un fantasme infantile. Il faut que je sois clair avec vous, le névrosé est un enfant. C'est ainsi que nous sommes tour à tour un enfant angoissé ou un enfant méchant. Et si je complète cette liste après ce que vous avez entendu aujourd'hui, je vous dirai que le névrosé est un enfant tantôt insatisfait, tantôt mécontent avec lui-même, tantôt culpabilisé et enfin tantôt comédien. Je voudrais terminer ce récit avec une phrase qui résume l'élan qui me porte vers le patient névrosé qui est devant moi. Travailler avec lui, c'est lui apprendre à aimer ce qu'il a, à aimer ce qu'il fait et à aimer ce qu'il est.
France Inter présente son premier podcast interactif, L'inconscient, avec le docteur Nasio.
Dans un instant, je répondrai à vos questions. Mais avant cela, nous écoutons Jamais content d'Alain Souchon.
Qu'aime plus ses jeux, sa vie, sa maman. Elle dit que je pleure tout le temps, que je suis carrément méchant, jamais content. Carrément méchant, jamais content. Déjà mes parents dans le temps voulaient que j'aille faire le charmant chez les amis de mon grand-père, des pharmaciens, des notaires, qui me trouvaient carrément vulgaire, très ordinaire. Carrément vulgaire, très ordinaire. Puis on m'a enrôlé d'office à peau dans les parachutistes. Ils voulaient que je tombe des avions accroché à un champignon. Je leur ai carrément dit non, pas beau l'avion. Carrément dit non, pas beau l'avion. Je me suis sauvé en Angleterre, je faisais le Frenchman super lover. Je me teignais les cheveux, les sourcils pour être plus brun, pour faire viril. Carrément débile, pas mon style, carrément débile, je trouve pas mon style. J'ai chopé la mélancolie en faisant des chansons sur mon lit. Une commande pour chanteur, pas bien, fallait que je dise France, américain. Ça m'a carrément miné, tout dégoûté. Carrément miné, tout dégoûté. Promoteur, il voulait canaille que je fasse de sous-table homme de paille. Construire des tours de carton bleu pour que les petits garçons mettent leur jeu. J'y ai carrément mis le feu, bien fait pour eux. Carrément mis le feu, bien fait pour eux. Que je pleure tout le temps, que je suis comme un tout petit enfant, qu'aime plus ses jeux, sa vie, sa maman. Elle dit que je pleure tout le temps, que je suis carrément méchant, jamais content. Carrément méchant, jamais content. Carrément méchant, jamais content. Carrément méchant, jamais content. Jamais content. Carrément méchant, jamais content.
Bien, venons-en aux questions. Maintenant, c'est à vous de parler, je vous écoute.
Bonjour docteur Nasio, et merci encore pour vos émissions et vos explications si nettes, si pédagogiques, si intéressantes. Merci énormément. Moi, je voulais savoir, par rapport à la classification que vous avez fait des névroses, les trois sortes, si c'est une classification qui est universelle, si elle vient de Freud, si elle vient de vos observations cliniques, de votre expérience de psychanalyste. Voilà, j'aimerais bien savoir si c'est vraiment général ou particulier à l'Europe, à la France. Là, ça, c'est une première question. Et une deuxième question concernerait, d'après ce que j'ai entendu ici ou là, il y aurait une majorité écrasante de femmes dans les cabinets. Est-ce qu'elles souffrent plus de névrose que les hommes? Est-ce que c'est la particularité féminine, comme on disait, disons, de Freud, l'hystérie. Et donc, je voulais savoir si ce que vous pensiez par rapport à la névrose masculine, qu'elle se manifeste comme la version féminine, ou est-ce qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes dans les symptômes des névroses. Merci beaucoup de vos réponses. C'était Nadia de Montauban.
Merci beaucoup, Nadia, de votre question. Elle me permet de clarifier mes propos sur la névrose. En effet, je dirais que cette classification des trois névroses existe depuis Freud. Elle a été ensuite modifiée par les psychiatres américains. Depuis une trentaine d'années, les psychiatres américains ont remplacé le mot « phobie » par le mot « troubles anxieux » et par le mot « attaque des paniques ». Mais l'idée de la phobie est restée parfaitement installée dans l'esprit des classifications. Ensuite, les psychiatres américains ont conservé la catégorie de l'obsession sous la forme des troubles obsessionnels compulsif, ce qu'on appelle le TOC, trouble obsessionnel compulsif. Et ces mêmes psychiatries américaines a supprimé la catégorie d'hystérie parce qu'ils ont trouvé que dans l'hystérie, on mélange trop les troubles somatiques et les troubles psychologiques et que l'hystérie était trop identifiée à la femme. Nous, en Europe, nous continuons à distinguer ces trois types de névroses en incluant l'hystérie. Pourquoi ? Parce que les psychanalystes et les psychiatres européens, nous sommes restés plus proches de ce que les patients nous disent quand ils nous parlent de leur souffrance. Je dirais que nous sommes plus cliniciens que chercheurs. Nous sommes plus attentifs à ce que notre patient nous dit qu'à ce que les statistiques nous disent. C'est pourquoi j'ai parlé des trois émotions majeures. C'est en pensant à nos consultations. Il y a trois émotions qui réapparaissent souvent. La crise d'angoisse, et c'est la phobie, que ce soit les sentiments d'impuissance pour l'obsession et que ce soit la douleur d'aimer pour l'hystérie. Tout praticien qui écoute un patient homme ou une patiente femme, va trouver inévitablement ces trois grands types de souffrances. Bien entendu, cette distinction des trois modalités de la névrose n'est qu'une boussole pour s'orienter dans l'immensité inextricable des souffrances humaines. Concernant la distinction entre une supposée névrose masculine et une supposée névrose féminine, c'est une fausse distinction. Pour une raison simple, c'est que tout névrosé, j'espère vous l'avez compris dans le récit que je vous ai donné, tout névrosé, qu'il soit homme ou femme, a des sentiments, des pensées et des comportements qu'on peut qualifier de masculins ou de féminins. C'est, vous savez, un névrosé est tantôt un homme, tantôt une femme, et toujours un enfant insatisfait.
Bonjour docteur Nazio, c'est Philippe. Je vois bien la volonté paradoxale que nous avons de répéter le trauma originaire, de revivre cette émotion excessive qui entraîne une addiction à cette émotion. Mais y a-t-il un lien, et si oui, quel est-il, entre l'addiction à cette émotion excessive et nos addictions ordinaires aux diverses drogues, sexe, nourriture? Merci pour votre éclairage.
Alors, Philippe, je vous répondrai oui, vous avez raison. Le traumatisme a été une expérience si douloureuse que l'émotion vécue à ces moments, c'est ce que s'appelle le trauma, s'enracine tellement profondément dans la personne du petit bébé. Si c'est un bébé, vous imaginez un bébé, on le sépare de la mère, on l'arrache de la mère. Demain, il sera un enfant adopté. Mais au début, il était arraché à la mère. Je suis toujours impressionné de savoir que ça, c'est une altération profonde dans l'être du bébé. Cette émotion s'installe, s'enracine dans le tréfonds de son être. Et cette émotion-là, que ce soit chez un bébé qui est abandonné par sa mère, que ce soit chez un enfant où la mère disparaît à 5 ans, ou que ce soit un adolescent où, effectivement, il peut avoir une séparation trop difficile de ses parents qui l'ont bouleversé, eh bien, cette émotion-là, l'émotion traumatique, le trauma, n'a qu'un seul tropisme, je dirais, une seule envie, c'est cette émotion de remonter à la surface et d'être revécue par l'adulte sous la forme d'une compulsion addictive. Donc, vous avez raison, l'émotion du trauma souvent résurgit sous la forme de l'émotion qui est au cœur de l'adulte et qui est à la base de ses addictions.
France Inter. L'inconscient. Cette semaine avec le docteur Nasio.
Poursuivons avec vos questions.
Bonjour docteur Nasio et merci beaucoup pour vos émissions qui m'amènent personnellement à banaliser un certain nombre de comportements puisque finalement nous sommes tous névrosés et nous avançons peut-être vers le contentement et l'amour de soi. La question que je voulais vous poser, c'est une question qui me revient assez régulièrement quand je parle avec mon analyste. C'est celle de la peur de la névrose n'est-elle pas une névrose elle-même ? Voilà, merci beaucoup.
Antonin, je vous répondrai que vous n'avez pas à avoir peur de la névrose. Puisque, comme je l'ai dit dans mon récit, nous sommes tous névrosés. Je me permets de vous faire une remarque personnelle sur un point que vous avez certainement évoqué déjà avec votre psychanalyste. Je dirais, ne vous posez pas la question de savoir qui vous êtes. Soyez sans vous demander qui vous êtes. Si vous vous demandez qui vous êtes, c'est une interrogation qui vous éloigne de la vie, de faire, d'agir. Donc, si je me permets, ne vous posez pas la question de savoir si vous êtes névrosé ou pas.
Bonjour, je m'appelle Catherine, j'ai 63 ans. Tout d'abord, merci pour ces émissions. J'ai été très intéressée par celle-ci en particulier. À un moment, vous évoquez des céphalées insupportables qui seraient en lien avec l'hystérie. En l'occurrence, je souffre de céphalées insupportables, mais depuis 5 ans, on a beaucoup de mal à trouver une piste valable, en fait. Donc, je voulais pouvoir comprendre ce lien entre l'hystérie et les céphalées, d'autant plus que je ne me reconnais pas du tout dans l'hystérique, en fait. Et si c'était le cas, comment on traite de ça? J'imagine que c'est par thérapie. Mais voilà, si vous pouviez développer un petit peu cet aspect-là de l'hystérie et des symptômes associés. Voilà, je vous remercie beaucoup. Au revoir.
Merci, Catherine, de votre question. La céphalée sans cause organique reconnaissable est souvent considérée comme une manifestation d'une souffrance hystérique. On l'appelle dans notre jargon un symptôme de conversion. Conversion veut dire que un conflit relationnel avec une personne qu'on aime ou qu'on hait n'arrive pas pleinement à être conscient. Il est inconscient. Et ce conflit relationnel va s'exprimer par un trouble somatique, un trouble dans le corps. C'est pour ça que ça s'est converti, de inconscient au corps. Et en général, effectivement, un de ces troubles fréquents, c'est la céphalée. Alors, la meilleure méthode pour traiter la céphalée, c'est de chercher dans le passé et dans le présent, Catherine, tout contentieux affectif avec quelqu'un qui compte ou qui a compté pour vous.
Stéphane, une question m'interpelle, me taraude concernant la psychanalyse et ce que je pense être une non-évolution de cette psychanalyse dans le monde d'aujourd'hui. Je suis convaincu qu'il y a un problème d'incompatibilité pour que la psychanalyse puisse évoluer avec ce système dans lequel nous vivons, qui est un système tellement normatif. La psychanalyse, qui est une chose absolument, aujourd'hui, plus que jamais fondamentale, d'une importance capitale, et qui malheureusement ne peut plus évoluer, tellement elle est enserrée, encerclée, dans ce système de globalisation qui est le maître du langage, si je puis dire. Voilà. Merci pour la réponse.
Stéphane, votre question est formidable, parce que vous soulevez le problème de ce qui est actuel et de ce qui est dépassé, de ce qui est possible et de ce qui est impossible. D'abord, je dois vous dire que je suis là, avec vous, grâce à France Inter. Nous sommes en juin 2023. C'est formidable. Quelle ouverture pour la psychanalyse. Voilà que la psychanalyse explose. Je ne parle pas d'autres émissions à la télévision, des séries qui ont été des succès formidables. Et là, nous parlons tous les deux. Je ne vous connais pas et vous entendez un psychanalyste s'adresser à vous. C'est déjà quelque chose qui augure des changements, certes, mais des changements positifs. Et puis, autre chose, il y a des gens, probablement même des auditeurs, qui doivent penser « Oh, la psychanalyse est vieux, c'est vieille, c'est fini, Freud a plus d'un siècle, arrêté. » D'accord, Freud a plus d'un siècle, mais quand j'ai lu Freud, quand je vois mes patients, je suis vivant, très vivant. Et tant qu'il y a quelqu'un qui est vivant, la psychanalyse est vivante. Donc, pour moi, c'est essentiel. Il n'y a pas d'auteur mort ou de philosophie morte tant qu'il y a quelqu'un de vivant qui la renouvelle, qui la fait sienne et qui anime son travail, sa pensée et son action. Merci à toutes et à tous pour votre intérêt et vos questions qui nous ont permis d'approfondir le thème de la névrose et de ses trois variantes. Merci à Franck Olivard qui récolte vos questions, Valentine Chedbois pour la programmation musicale, Antoine Teboul était à la technique et Anaïs Reynard à la réalisation. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Clotilde Le Guil qui vous parlera de l'enfance et l'angoisse. D'ici là, vous pouvez d'ores et déjà écouter son podcast sur la page de l'inconscient sur franceinter.fr et lui poser vos questions par note vocale ou sur le répondeur au 01 56 40 64 04. Aujourd'hui, c'était mon dernier épisode de la saison. Après tant d'émissions que nous avons partagées ensemble, je voudrais vous dire un mot de conclusion. Ma rencontre avec vous m'a beaucoup changé. Je ne suis plus les mêmes aujourd'hui qu'il y a un an. En préparant chaque émission, en vous parlant et en répondant à vos questions, j'ai beaucoup appris et j'espère que vous aussi vous avez beaucoup appris. Je vous remercie d'avoir été là et je remercie tous les réalisateurs et les techniciens qui nous ont aidés, ainsi que la direction de France Inter qui m'a accordé sa confiance. Je vous souhaite à tous un très bel été.